Notre Père, merci parce que tu es le Créateur, l'auteur de tout ce qui vit. Merci parce que tu es l'auteur de notre salut et nous recevons de toi la paix. Nous regardons à toi ce soir pour que tu continues ton œuvre en nous. Nous venons de chanter que nous avons tout trouvé en toi, mais je reconnais qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en route et nous te demandons de nous accompagner. Permets que cette heure ensemble, à l'écoute de ta parole, à l'écoute les uns des autres, puisse être un temps béni par ta présence, par l'œuvre de ton esprit en nous, et que nous puissions faire quelques pas, les uns et les autres, dans la bonne direction, que nous puissions être un peu plus équipés pour vivre, pour t'écouter, pour te servir, pour aimer et servir notre prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelques annonces rapides. Ceux qui n'ont pas d'email n'ont peut-être pas su que le rendez-vous de demain est à midi avec pique-nique ici, pour ceux qui veulent faire un tour en profitant de la merveilleuse météo d'aujourd'hui et demain. Donc rendez-vous midi avec pique-nique ici à l'ABN. Et l'atterrissage probable est dans un beau village à Einsbrunn. On m'a dit de signaler... Pardon ?
On sera logé chez l'habitant.
On m'a dit de suggérer de signaler que Josette Linger va rentrer.
Va rentrer lundi.
Va rentrer lundi de Sentheim.
Saint-Jean,
de Sentheim.
Je n'ai pas compris, là.
Pardon, Josette Linger va rentrer chez elle lundi de Sentheim où elle était.
C'est vrai.
Je ne sais pas, on me l'apprend.
Elle m'a téléphoné. Si.
Voilà, une nouvelle. D'autres nouvelles rapides à se communiquer pendant qu'on est ensemble.
Content de te revoir.
Merci beaucoup, c'est réciproque.
Il y avait un rendez-vous pour l'enterrement de la grand-maman de Romuald cet après-midi.
Oui, oui.
L'enterrement
de la maman de Romuald.
Ah, grand-maman.
Grand-maman, pardon. Oui, bien sûr. De la grand-maman de Romuald a eu lieu cet après-midi à Ilzac.
Oui, enfin, c'est encore le territoire de Mulhouse.
Oui, oui.
Au funérarium.
Oui, oui, oui. Prions pour remuer toute la famille. Voilà, bienvenue à notre 10e sous-thème de notre thème de l'année, l'Église et moi. À quoi sert l'Église dans le monde d'aujourd'hui? Sous-titre de notre 10e thème, l'Église et moi, la fonction de notre Église dans la société. À quoi servons-nous? On a parlé de variété, d'implication, d'accueil, la place des enfants, des faibles. On a parlé de conflits, de vie privée, d'autorité, de la fonction de l'Église, à quoi me sert-elle? Et nous en sommes ce soir à la question symétrique, la fonction de notre Église, à quoi servons-nous? Je n'étais pas là le mois précédent. On peut être étonné, surpris, peut-être gêné, par le côté utilitaire du titre. À quoi servons-nous? L'Église n'est pas toujours là dans nos têtes pour servir à quelque chose. Elle est là comme famille spirituelle voulue par Dieu, qui rassemble ceux qui croient en lui. Mais bien sûr, l'Église est bel et bien appelée à être présente, agissante et utile dans le monde où elle est au présent. Elle est appelée à honorer Dieu, à l'adorer, à le connaître, à le faire connaître, et aussi à le refléter comme lumière faisant connaître la lumière, comme main et pied sur terre de celui qui est souverain et qui agit constamment sur terre. La prédication de dimanche dernier nous a d'ailleurs invités à accueillir et à agir, à pratiquer l'entraide dans la famille que l'Église doit être. Je vous propose quelques lectures bibliques que vous pourrez compléter, bien sûr, comme toujours, puis un tour d'horizon de quelques remarques concrètes que vous pourrez compléter, bien sûr, en sachant que nous pourrons poursuivre la réflexion dans les groupes de maison la semaine prochaine. Certains se sont servis dimanche, certains se sont servis en arrivant. Les questions pour les groupes sont prêtes sur la rampe dans le hall. Premièrement, repères bibliques, quelques textes. Tout d'abord, Matthieu 5, 13 à 16, nous sommes sel et lumière. Matthieu 5, 13 à 16, début du grand discours appelé Sermon sur la montagne. Jésus parle et dit, « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Voilà quelques versets dans lesquels se trouve l'expression bien connue « Sel, nous sommes le sel, nous sommes la lumière ». Mais j'évoque l'ensemble du sermon sur la montagne qui nous dit du début à la fin que nous sommes invités à vivre en accord avec la pensée que Dieu veut que nous comprenions, sa pensée à lui. Nous sommes invités à vivre différemment. Nous sommes invités à faire l'extraordinaire tout au long du sermon sur la montagne. Nous sommes appelés à vivre de façon marquante. Dans nos villes, dans nos villages, dans nos écoles et dans nos entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire du texte très court que je viens de lire en relation avec notre thème ? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, une lumière ne doit pas être cachée, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui parle dans ce texte d'être utile ? Je reprends notre titre, « À quoi l'Église sert-elle dans le monde d'aujourd'hui ?» Qu'est-ce que, je vous donne un peu la parole, qu'est-ce qu'on peut repérer dans ce texte, soit dans les images, soit dans les expressions assez claires ?
On doit refléter Dieu.
On doit refléter Dieu, oui. Ça pourrait, alors ça évoque la vie, tout à fait. Ça ne dit, on pourrait dire que ça ne dit pas explicitement qu'on doit être utile, quoique, refléter Dieu, c'est être présent, actif, aimer en action. Donc ça marche. Quoi d'autre ?
Il y a le mot lumière.
Oui.
Donc on peut être là pour éclairer le chemin de ceux qui marchent dans les ténèbres.
Merci. La lumière est utile. Je me raccroche au mot utile. La lumière est utile. Elle permet d'avancer, elle permet de mieux avancer. On peut avancer sans lumière, mais ça va mieux avec la lumière. Même chose pour le sel, on peut manger sans sel, mais le sel fait que c'est mieux, si on a trop, c'est pas bon. Mais l'image, c'est ça quand même. Le sel est utile. Quoi d'autre dans ce texte ?
Quand tu dis « le sel est utile », ça me fait penser à un dicton juif qui dit « le monde peut exister sans poivre, mais pas sans sel ». C'est-à-dire que c'est plus qu'utile, c'est indispensable en fait.
Merci beaucoup Thomas pour cette précision rabbinique et intéressante, disant « le monde peut vivre sans poivre, mais pas sans sel ». Oui, et c'est, vous avez entendu des commentaires sur l'importance du sel. J'ai évoqué il y a 3 minutes le fait que le sel donne un bon goût. On parle ici de saveur, mais c'est bien connu qu'il conserve et qu'il est très utile et qu'il peut être vu comme nécessaire. Quoi d'autre dans ce texte que vous avez peut-être sous les yeux, peut-être en mémoire, Didier ?
Eh bien, on sert donc de témoignage au monde.
Oui.
Pour que les gens voient la lumière en nous,
oui,
à la fin du verset, hein, ils voient nos bonnes œuvres.
Oui.
Et le but final, c'est pas qu'ils nous louent, mais qu'en fait, ils débordent de louanges envers Dieu et finalement, ils se tournent vers Dieu.
Oui.
Le but final, c'est que nous, on serve à ce que les gens finissent par adorer, glorifier, louer Dieu.
Oui.
Parce qu'ils voient le la belle chose en nous.
Oui.
Et on espère qu'ils vont le vivre eux aussi.
Oui, mais qu'est-ce qu'ils voient en nous? Et dans ce que tu as cité, moi j'ai envie de relever tout particulièrement œuvre bonne.
Voilà.
Tu vas vers, à la fin, en relevant, tu as raison, le but final pour qu'ils connaissent Dieu et qu'ils le glorifient.
Voilà.
Mais si on veut coller à notre thème, ce qui est moins fondamental dans un sens, mais qui précède, c'est les œuvres bonnes, qui est en relation, à mes yeux, directe avec notre thème. Nous sommes la lumière du monde en faisant des œuvres bonnes, donc en faisant des choses utiles.
Oui, voilà.
Et pas simplement en ayant des bons discours, hein, pas simplement en annonçant la vérité, hein, mais en faisant des œuvres bonnes qui vont faire que les hommes et femmes vont remarquer que du bien surgit. Il y a du bien par là. Et ça va faire réfléchir et ça va orienter vers Dieu.
Voilà.
Mais en attendant, en première étape, ça va tout simplement faire du bien.
Voilà.
Voilà. Vous connaissez ce texte. Il m'est venu très vite à la pensée comme texte disant clairement qu'effectivement nous devons servir à quelque chose et pas simplement être de ceux qui se rassemblent parce qu'ils sont unis par la foi en Dieu et parce qu'il est bon que l'on s'encourage dans la foi. L'Église n'est pas que lieu de rassemblement pour ceux qui ont une foi commune. L'Église se doit de pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées. Alors je suis conscient que dans Matthieu 5, l'Église n'existe pas, mais Jésus s'adresse aux croyants et à ceux qui vont former l'Église, qu'il va évoquer entre autres dans Matthieu 16 et après. Autre texte, Jean 15, un verset, Jean 17, trois versets. Jean 15, 19, que je cite, parce qu'il a pu nous faire, nous conduire dans de fausses routes par rapport à notre thème. On n'est pas du monde. Donc, on pourrait dire, on n'a pas grand-chose à faire sur Terre. L'important, c'est de penser aux choses spirituelles. Colossiens 3. Donc, mais ce texte a pu être mal utilisé, je pense. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. On a la même idée dans Jean 17, versets 14 à 19. Dans la prière que Jésus adresse à son Père quelques heures avant de mourir, Jésus dit, verset 14 de Jean 17, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Nous ne sommes pas du monde. Jésus n'était pas du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que cela ne veut pas dire? Qu'est-ce qu'on a peut-être dit de façon regrettable avec cette expression « Ah, on n'est pas du monde ».
Se retirer du monde.
Oui, on a pu se retirer du monde. Il y a eu des grands mouvements, mais pas seulement les grands mouvements dans les siècles passés. On a pu, nous, moi j'ai grandi dans un contexte pour lequel je dis beaucoup merci à Dieu, mais où il y avait un peu trop de ça, au sens regrettable. Il ne fallait pas trop aller en ville, si je peux appeler Valentine une ville. Mais quand même, il y avait un cinéma, il y avait des bars. Je pense qu'on a lu ce verset en y mettant quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le verset et qui était un peu forcé, un peu regrettable. Et j'ai grandi, heureusement, j'étais dans l'école du village, j'avais des copains du village, heureusement, je passe au mot village. Mais sinon, cette expression « n'est pas du monde » était, me semble-t-il, poussée de façon un peu regrettable. Parce qu'on est bel et bien, quand même dans le monde. Et Jésus nous envoie dans le monde. Et il dit à son père, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Donc on est dans le monde. Et on doit être présent, et on doit agir, et on doit aimer notre prochain. Comment faire si on est entre nous, hein, et si on n'est pas dans le monde, et si on n'est pas utile au monde, en accomplissant des œuvres bonnes. Ça va ? Troisième texte, je reviens en arrière quant à l'histoire du peuple de Dieu et à notre Bible. Jérémie 29, qui est bien connu aussi et qui touche de près notre thème. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, engendrez des fils et des filles, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. On y reviendra avec les groupes de maisons. C'est un des textes qui est très clairement en relation avec notre thème. Dieu dit à son peuple qui est en déportation, qui n'est pas chez lui. Donc c'est d'autant plus pertinent avec notre réflexion. Dieu lui dit qu'il est important qu'il s'engage, construise, bâtisse et contribue à la paix de la cité, de la ville où il les a déportés. Le contraire pourrait s'appeler attendre que ça passe. Dieu dit non, ne faites pas ça. Et il dénonce ceux qui le disent. Un autre contraire pourrait être attendre l'étape suivante, attendre la vie future. Pour l'instant, on n'est que en passage. Dieu dit non, vous êtes déportés, soit, mais contribuez au bien de la ville. Il y a un texte qui dit d'ailleurs que nous-mêmes, nous sommes de passage sur cette terre. Et lui aussi a peut-être été cité de façon un peu trop colorée, quelquefois. Vous devinez à quoi je pense ? Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Hébreux 11, 13. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qu'on appelle les héros de la foi, en sachant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre ? Ils ont accompli beaucoup de choses, pardon.
Ils sont allés de l'avant.
Ils sont allés de l'avant, hein. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres. Ils ont creusé des puits et ils ont contribué au bien de la région et de la ville et du pays où ils étaient. Étrangers et voyageurs d'une autre patrie, oui, mais pas moins actifs dans notre cité provisoire avant la cité permanente. C'est un des textes qui a pu aussi nourrir cette fausse piste qui dit que nous, on n'est pas vraiment d'ici, on est d'ailleurs. Donc, à quoi bon s'engager à fond pour notre ville, dans le conseil municipal, dans la cité, dans les actions qui sont engagées, puisqu'on est d'ailleurs? Non. Dieu dit « Recherchez le bien, la paix de la ville où je vous ai déporté. » Voilà une expression clé que je vous propose de garder. C'est les lumières, Matthieu 5. Pas du monde, mais dans le monde, Jean 15, Jean 17. Contribuer au bien de la cité, Jérémie 29. Est-ce que vous voulez ajouter un ou deux textes ou expressions avec ou sans référence biblique? Tout est accepté.
Lorsque tu dis que ces textes ont des fois été trop colorés, On pourrait peut-être préciser, parce que c'est quand même des textes aussi fondateurs quant à notre identité.
Oui.
Mais peut-être dans la couleur mauvaise, on va dire, ça peut conduire à un certain mépris, en fait, des gens qui ne sont pas nous.
Enfin, oui.
Et je pense que c'est là qu'est le danger. Parce que faut pas qu'on renonce à notre identité et qu'on se dilue, mais le danger c'est peut-être de, parce que nous on n'est pas du monde, de se sentir supérieur, de maîtriser les autres. C'est peut-être ça qu'il faut dénoncer.
Merci Adeline, on va réfléchir 2-3 minutes ensemble, de nous inviter à préciser ce que j'ai dit en une ou deux phrases. C'est ce genre de verset a pu être trop coloré, et je dis a pu nous emmener sur des chemins qui ne sont pas justes. En poussant l'expression là où on ne devrait pas la pousser, nous ne sommes pas du monde. Et tu dis, par exemple, il y a peut-être des étapes moins graves qu'on peut repérer. Ça, on peut en arriver au mépris des autres, de ce qui n'est pas nous. Oui. Avant cela, j'ai suggéré tout à l'heure, je vais le dire plus clairement peut-être, on peut faire vivre faussement en manquant d'intérêt. On peut se désintéresser. Hein? On peut ne pas assez s'engager dans ce qui n'est que la vie sur Terre. Ouais. Donc c'est, à mon avis, c'est un autre étage. Pire, on peut mépriser. Ouais. On peut ne pas reconnaître ce qui se fait, ne pas s'intéresser à ce qui se fait sur Terre en disant, mais nous, on s'intéresse aux choses spirituelles, Colossiens 3. Oui. D'autres veulent compléter la réflexion ?
Justement, oui. Suite à ce que dit Aline, nos contemporains, un certain nombre de nos contemporains se donnent à fond toute leur existence pour faire de la recherche, pour trouver des médicaments ou une manière d'opérer des personnes. Et nous, on est reconnaissants de tout le travail qu'ils ont fait. Ils se sont donnés à fond, comme tu dis,
oui.
Comme les chrétiens sont invités à se donner pour la société. Et on en profite bien. On est bien content que ces gens aient travaillé, aient sué, aient étudié, tout ça, et nous on en profite tous. Quelle est notre estime de notre part vis-à-vis de ces personnes?
On doit les estimer, comme tu le sous-entends en posant la question, on doit les admirer, et on doit faire pareil, ou plus, pas parce qu'on est meilleur, mais parce que le Christ nous dit, faites du bien, et regardez ceux autour de vous qui font du bien, il l'a dit. Et apprenez des leçons de ceux qui peut-être ne me connaissent pas, mais font du bien. Il a dit tout ça, Jésus ? Oui. Et puis, Jésus a dit dans ce fameux sermon sur la montagne, « Faites plus avec les forces que je veux vous donner. Si vous ne faites pas mieux que ceux qui saluent ceux qui sont sympas avec eux, ça n'est pas suffisant. » Jésus nous demande, noir sur blanc, de faire l'extraordinaire. Et donc si certains se dévouent à fond dans la recherche, dans la construction, dans tout ce qui peut permettre le progrès et du mieux-être, c'est anormal qu'on ne fasse pas nous aussi notre part. Jean-Marc ?
Oui, j'ai envie de dire que c'est notre manière de regarder les gens qui... Vous me faites penser, quand je vous écoute, à cette manière-là, je me permets de le dire. Dans nos traditions, comme tu l'as dit, Étienne, et je trouve que c'est très pertinent, on voit les gens comme des pécheurs. Parce que c'est dans notre culture, je suis pécheur, l'homme est pécheur, et on a besoin du pardon de Dieu. Et en plus, on voit les gens comme pécheurs et perdus. Donc on va les évangéliser. Tout ça, c'est vrai, et on a raison de le faire. Mais si on ne fait que comme ça... On oublie aussi que les gens que nous avons, ce sont des créatures de Dieu, qui ont été créées par le Dieu Tout-Puissant, qui n'a pas raté du tout son coup, et qui a fait des hommes et des femmes vraiment chouettes. Quoi. Donc, à la fois, il faut garder cette idée du péché, mais à la fois aussi, quand je rencontre quelqu'un, c'est une créature de mon Dieu. Je pense que ce regard-là nous aide à les aimer.
Oui, merci.
Et puis aussi que nous, on est pécheurs, quoi.
Et nous, on est pécheurs aussi. Et ces pécheurs qui n'ont pas encore, peut-être, certains d'entre eux, compris que Jésus-Christ est venu sur Terre pour nous révéler le Père et pour nous offrir le salut, ils sont néanmoins des personnes qui se retroussent les manches, et quelquefois merveilleusement, Et il ne faut pas qu'on soit gêné, on l'a été, quelquefois. Il ne faut pas qu'on soit gêné d'admirer ce qui est fait par ces gens à qui on souhaite de découvrir la bonté du grand Dieu qui les a créés. Ça marche ? Lucette.
C'est peut-être Dieu qui les a doués, qui leur a donné les talents pour faire ce qu'ils
ont. On est nombreux à penser que c'est certain, que c'est Dieu qui a donné, qui a équipé chaque homme et femme des dons que chaque homme et femme a. Et donc, ne soyons pas gênés de reconnaître, d'apprécier, d'admirer ce qui est fait. Et puis, prenons notre part. Merci. D'autres remarques ? Autre texte ou complément de réflexion devant ces trois textes que j'ai voulu mettre sur la table ? Didier.
Pour aller un peu dans le sens de ce qu'on vient de dire,
oui.
Peut-être qu'on avait aussi un autre texte qu'on interprétait un peu dans le même sens. C'est quand l'apôtre Paul dit toute la liste de la Corinthiens 13, mm-hmm. ou avant ou après, je ne sais plus. Enfin, je pourrais faire ceci, ceci, ceci,
oui.
mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et nous, on a toujours l'interprétation qu'on n'a pas l'amour de Dieu en nous. Le bien qu'on peut faire, c'est vrai, n'a pas de valeur pour l'éternité.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, un être humain, on le sait très bien, ne peut pas faire beaucoup de bien de sa vie. Et s'il ne croit pas en Jésus,
mm-hmm.
il ira malgré tout, malheureusement,
mm-hmm.
en enfer. Donc moi, je crois que ce verset qu'on avait... Voilà, on peut faire plein de belles choses, mais s'ils n'ont pas l'amour de Dieu, donc ça ne vaut rien, mais on va peut-être un peu loin.
Oui, et en tout cas, le texte ne dit pas l'amour de Dieu, il dit l'amour.
Voilà, l'amour, en plus.
Et ce que je fais...
Je suis sûr qu'il y en a qui aiment énormément, qui ne sont pas chrétiens.
Bien sûr, c'est là que je voulais en arriver. Ce que je fais pour me faire bien voir peut être matériellement efficace, mais Jésus... Enfin, Dieu nous apprend par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 que ça n'a pas de poids au regard des œuvres bonnes que nous devons faire. Ce qui compte, c'est l'amour et pas simplement le fait d'avoir aidé quelqu'un à traverser la route.
Et voilà.
Donc un geste peut être efficace, mais ne pas être un beau geste en fait,
oui.
si ce n'est pas par amour. Mais ce n'est pas simplement parce que j'aime Dieu ou pas Dieu. C'est l'amour en tant que tel.
Ah oui, voilà.
Enfin, je pense. Voilà. Comme ça que je lis cela. Et nous croyons que Dieu est celui qui nous apprend à aimer.
Oui.
Mais nous constatons que des personnes qui ne connaissent pas Dieu aiment profondément et se dévouent profondément. Et nous demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'aimons
moins
pas bien. Pas
plus.
Bien.
Ouais.
Et où nous faisons des choses avec un grand manque d'amour. Mais l'amour, c'était le dernier point.
Moi
non. T'as très bien, t'as tout à fait.
On avance.
Deuxième moment, quelques pistes concrètes. On pourra citer tous les versets qu'on veut dans les minutes qui suivent, mais j'ai essayé de repérer quelques pistes concrètes. Et je reprends avec un point du culte que j'ai déjà évoqué le dimanche passé, où Marie-Noël nous invitait, nous exhortait fortement à accueillir comme une famille doit accueillir. Accueil de tous. Là encore, on n'est pas les seuls à pouvoir le faire, mais on devrait étonner en tant qu'Église, puisque l'Église doit servir à quelque chose dans ce monde, en tant qu'Église, on devrait étonner par la qualité de l'accueil à tous. Je l'ai mis en premier parce que l'accueil, ça va bien en premier. Et j'ose dire, avec reconnaissance, que c'est un point qui, effectivement, dans ce que j'ai un peu vu depuis quelques dizaines d'années, c'est un point qui, effectivement, a été remarqué souvent dans les églises. Mais nous devons, comme piste concrète, entendre et comprendre que nous devons accueillir tout le monde de façon particulièrement forte, avec détermination, parce que Dieu nous demande d'accueillir le prochain. Entraide, deuxième mot que je vous propose, l'amour du prochain au concret. On peut penser à la parabole du bon samaritain, bien connue, où Jésus dit que celui qui a accompli la volonté de Dieu, ce n'est pas celui qui s'est préservé de la souillure que pouvait représenter quelqu'un qui était blessé pour pouvoir aller accomplir le service au temple, mais c'est celui qui a eu la compassion suffisante, l'amour, clin d'œil à la citation biblique de Didier tout à l'heure, pour s'arrêter, se retrousser les manches, être en retard, probablement, au rendez-vous où il allait, et ne pas pouvoir accomplir dans les heures qui suivaient le service religieux qu'il devait accomplir, probablement. Et Jésus met clairement en avant comme exemple celui qui a aimé concrètement le prochain. L'Église doit être utile. Elle doit aimer concrètement son prochain. Là encore, les églises, les missions ont heureusement une histoire assez belle dans l'entraide sociale. La longue tradition de l'armée du salut, pour parler des autres, en faveur des plus pauvres. L'élan historique très connu de l'abbé Pierre, pour parler encore des autres. Les friperies, les centres ASP et Accès et tout autre. Souvent au loin avec les œuvres missionnaires, les hôpitaux, les orphelinats, les écoles d'agriculture et les centres d'aide en tout genre. Tout ceci, nous devons le considérer comme étant extrêmement pertinent et incontournable pour obéir à tout ce que la parole de Dieu nous enseigne et qui dit que l'Église, que les croyants, que ceux qui reflètent Jésus-Christ, qui sont sel et lumière, doivent être utiles et doivent panser les plaies de ceux qui, comme celui que le Samaritain a soigné, en ont bien besoin. Ça va ? Troisième suggestion concrète, ça va revenir avec les discussions dans les groupes, des comportements tout au long de notre marche, de notre vie dans la ville, dans la cité, des comportements qui expriment le respect. On parle de comportement citoyen, mais on peut aussi parler du respect de la... Alors pour nous, de la création, pour ceux autour de nous, souvent ça va être seulement la nature. Mais là encore, des attitudes cohérentes et remarquées, pas pour se faire remarquer, mais des attitudes cohérentes et remarquées, remarquables, correspondent à ce que Dieu veut que l'on fasse, que l'on vive. La vérité, la droiture, revenir à la, dans les bonnes histoires bien connues, banales, revenir à la caisse parce que la caissière a oublié de noter un article. Des non-croyants le font. Mais si les croyants ne sont pas des exemples de droiture, de vérité, on rate quelque chose. On doit étonner, et on étonne, on doit étonner par notre attachement à la droiture et à la justice et à la vérité. On n'est pas obligé, petite remarque que j'ai notée ici, on n'est pas obligé de le dire, de dire qu'on le fait en tant que croyant. Il y en a qui sourit, parce que vous l'avez peut-être cru, je l'ai cru. C'est pas grave si on fait quelque chose de bien qui est remarqué comme étonnant et que les gens ne savent pas qu'on est croyant et qu'on l'a fait parce, entre autres parce que l'Évangile nous y aide et nous pousse dans cette bonne direction. On a fait du bien sur terre, point. Là aussi, c'est ce que j'entendais assez peu il y a quelques décennies. Quatrième suggestion concrète, être partie prenante dans les réflexions de fond sur terre. Une expression qui ne doit pas être de l'orgueil, apporter de la lumière dans les réflexions de fond. On n'est pas des lumières. Mais on doit apporter de la lumière dans les réflexions de fond, dans les grands enjeux de société, les grandes questions éthiques, la valeur de tout homme, le début et la fin de la vie, le mariage, l'accueil de l'autre, le racisme, la violence, les guerres, la corruption et la vérité. La vérité avec un grand V, oui, on va y venir aussi. Mais on doit être présent. On l'a été, là aussi, assez peu dans certaines périodes de l'histoire de l'Église. On l'est un peu plus, on ne l'est pas forcément bien. Dans les bonnes nouvelles, on a été réclamé quelquefois, que Dieu nous aide à être à la hauteur de ceux qui nous réclament. Pour les commissions éthiques, l'État est allé chercher des religieux. Prions pour ceux qui acceptent de répondre présent, pour qu'ils apportent une lumière utile, pas forcément en citant beaucoup de versets, mais qu'ils apportent une lumière utile en tant que croyants éclairés par Dieu. Remarque.
Oui, faut, comme Jean-Marc l'avait dit la dernière fois, avec le bouquin libre de le dire,
oui.
Faut le faire avec sagesse,
oui.
Et pas se poser en donneur de leçons.
Oui.
Et moi j'aime bien le verset dans la Thessaloniciens qui, ça touche les prédications, mais on peut aussi le prendre pour tout ce que la société nous apporte, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Et dans la société autour de nous, je crois que c'est pareil. Pas venir en donneur de leçons, mais déjà examiner ce qui se fait, ce qui se dit, et puis peut-être que Dieu nous conduira à amener quelque chose de plus, mais voilà. Et je pense beaucoup à l'écologie, je pense que en écologie, on n'a pas... Enfin, je pense pas que l'Église est très moteur par rapport à d'autres citoyens.
Oui.
Donc on a, ouais, ouais. On a des leçons à recevoir des autres aussi.
Il y a quelques élans nouveaux, ouais. en faveur d'une réflexion et d'action concernant la protection de la nature. Mais on a plutôt, à mes yeux, à tes yeux, on a plutôt été lent à la détente. Et peut-être, avec ce que j'ai dit il y a une demi-heure, avec ces fameux versets, plutôt un peu peut-être freiné, hélas, par ces versets qui disent « ça, c'est pas vraiment notre job à nous ». Vous le savez, nous, on doit évangéliser. Et mais pas seulement. Et on a été un peu à la traîne, une fois ou l'autre. Plus, j'ai l'impression que dans le milieu, que dans le domaine médical, où là, les missions en particulier ont été plutôt en avant, semble-t-il, et ont honoré l'Évangile en prenant soin du prochain.
Ça fait quand même quelques dizaines d'années, je ne me souviens plus la date, que le Conseil œcuménique des Églises avait sorti son fameux petit... parce que je dois dire quasiment un livre sur des sujets comme la préservation de la création. Donc c'est une prise de conscience qui est quand même qui n'a pas attendu les crises du réchauffement climatique dont on parle aujourd'hui.
Oui.
D'une part, et d'autre part, je veux quand même souligner que l'écologie est présente dans les pays, si on regarde les pays où le protestantisme a pris bien racine, je trouve l'écologie ou le souci de l'environnement est beaucoup plus présent que dans les pays où le protestantisme est moins implanté. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une manifestation de ce qu'on appelle l'éthique protestante qui inclut la préservation de l'environnement depuis de longues années quand même?
Oui, c'est possible. En tout cas, il me semble important que ce soir et dans les années qui suivent, on comprenne mieux, on enregistre bien que c'est pertinent d'être de ceux qui... contribue à la promotion de ce genre d'attitude. Moi, j'étais content que le groupe qui s'appelait Jeunes Adultes dans le passé proche, maintenant Ecclésia, ait passé toute une année à réfléchir à la pertinence chrétienne du chrétien devant la protection, le respect, la préservation de la nature et le non-gaspillage et tout le reste. C'était intéressant. Oui.
Moi, je voulais dire, quand même, là, pour reprendre un peu ce que disait Jean-Marc, moi, je vais parfois sur des sites anglais, certains évangéliques américains ne sont pas du tout dans le truc écologique, et eux, ils nient carrément le réchauffement climatique.
Alors, ça existe aussi.
Ils vont plus loin que Claude Allègre, qui niait que c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique, ça existe aussi, mais certains nient carrément que le réchauffement climatique existe. Et leur argumentation, j'ai d'ailleurs été choquée de voir dans un petit livret qu'on distribue aussi ici, qui est Parole, je ne sais plus, de Bob Gass.
Parole du jour.
Parole du jour. Oui. Il y avait une interview, et là, c'était un universitaire belge qui en même temps est pasteur, et lui, il était vraiment dans ce truc-là. Pour lui, la COP21, c'était du pipeau. C'est basé sur des trucs, et il y avait des motifs très égoïstes, parce que... À un moment donné, il disait à ses lecteurs, est-ce que vous accepteriez de revenir en arrière et de plus avoir le même confort, etc. C'est vrai que moi, j'aurais du mal à l'accepter si je devais vivre comme au 19e siècle. Mais est-ce que c'est un argument? Voilà,
on est d'accord.
Prenez ça, donc, ça fait appel à l'égoïsme, on veut nos 4x4, etc. Ouais. Certains,
j'ai entendu une conférence récemment qui ressemblait à ça. Et une des questions qui m'est restée est un défi que je pense relever, c'est que nous soyons particulièrement prudents devant ces questions extrêmement difficiles. Il y a des gens apparemment érudits et apparemment sérieux dans des camps différents.
Ouais,
et on est un peu perdus. Et il me semble que les croyants devraient être tout particulièrement attachés, pas seulement eux, je répète, j'ai dit 2-3 fois ce soir, mais tout particulièrement attachés humblement avec modestie, à la recherche de la vérité, est-ce que vraiment, et pourquoi il y a une courbe qui dit ça, une autre qui dit tout autrement, ou apparemment on peut faire dire ce qu'on veut aux courbes, quelquefois, on ne va pas se lancer dans tout ça. Mais il me semble qu'une attitude chrétienne, là, c'est la modestie, l'attachement à la vérité, et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais développer cet attachement à la vérité et contribuer à faire repousser ce qui est manipulation, déclaration facile à faire avec des tableaux qu'on manipule sans que les gens les comprennent bien. Et moi, je pense qu'il y a des croyants scientifiques qui contribuent un peu à ça, et il y a des non-croyants scientifiques qui contribuent aussi à ça par conviction scientifique et par attachement à la vérité, mais que les croyants soient celles et lumières, et qu'on contribue à dénoncer ce qui est manipulation et à faire un peu avancer ce qui est clarification. Mais on a mis les pieds dans le plat, dans quelque chose de très complexe. Oui, Brigitte.
Concrètement, je reviens un peu à l'écologie ou à l'éco-citoyenneté. Il y aura prochainement la journée citoyenne.
Oui.
Est-ce que les croyants sont engagés dans cette...
Oui. Alors le Quoi de Neuf le dit déjà, je crois. Pas sûr.
C'est un petit peu dans le programme, mais il faut qu'on y...
C'est un petit peu dans le programme, le Quoi de Neuf ne le dira plus. Oui, on est plusieurs à avoir dit « c'est impensable ». Mais c'est très bien que tu poses la question. J'en profite pour le dire ici, on le redira aux annonces. C'est impensable que nous ne soyons pas cohérents en répondant à l'appel de nos autorités civiles qui demandent aux citoyens de bien vouloir se retrousser un peu les manches dans la bonne humeur pour contribuer au bien de la ville. C'est Jérémie 29, presque. Donc, I Love Mulhouse a changé son programme et a annulé une journée sport pour s'inscrire à la journée citoyenne. C'est pas mal. Réponse claire. Et puis, la mairie nous a demandé si on voulait bien organiser le barbecue géant parce qu'on sait bien faire ça. Donc on est un peu dans le coup, avec Claude et d'autres. Ils ont vu qu'on avait réussi à nourrir 1000 personnes. L'année passée, ils en avaient 150-200. Ils ont dit, ben, ça, vous devriez savoir faire, vous. Mais s'il y a tous les jeunes d'I Love Mulhouse, on va doubler. Donc, il faudra qu'on achète un bon paquet de saucisses. Bref, oui, c'est pertinent de ne pas simplement demander des autorisations à la ville pour faire ce que nous, on a envie de faire, mais d'être présent quand on nous demande de contribuer au bien de la ville. Et c'est pertinent, dernier samedi de mai. Et c'est pertinent de développer cet état d'esprit de service et pas simplement et de ne pas être gêné de dire « Ah, mais on n'est pas en train de faire le plus important. On n'est que en train de faire des choses matérielles. » Vous voyez tout ça qui est dans nos têtes souvent, qui a été dans ma tête. Voilà. Et donc, moi, si on fait une parenthèse concrète aussi, c'était ce qui a beaucoup encouragé plusieurs d'entre nous, avec l'état d'esprit de type « bouge ta ville ». En disant, on n'est pas là pour distribuer des traités, mais pour faire du bien, Jérémie 29. Et puis, que Dieu nous aide, c'était une des choses que le groupe Jeunes Adultes a voulu mettre en avant le dimanche où il a donné quelques échos de son année thématique. Soyons personnellement cohérents. Ne jetons pas des trucs par la fenêtre en voiture. Vous ne le faites pas, mais ben, ne le faisons pas. Et faisons le tri sélectif, enfin, etc. C'est pertinent. C'est pertinent. Oui ?
À propos du débat sur l'écologie, en écoutant les différentes positions, je me dis, mais avant de dire si la Terre se réchauffe ou pas, il faut se dire, nous, en tant que chrétiens, quelle est notre approche ? Est-ce que c'est sensible pour nous cette question? Mm-hmm. Ou est-ce que si finalement la Terre finalement ne se réchauffe pas, oh, bah, alors je peux faire n'importe quoi? Bien sûr que non. Mais pourquoi non? Parce que c'est là qu'intervient notre éthique de la création, de l'écologie. Que la Terre se réchauffe ou pas, on a une éthique sur la création.
Merci beaucoup.
Sujet de la création.
Jean-Marc. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Jean-Marc, on doit respecter le prochain. On doit respecter la création et que le réchauffement climatique soit, paraît-il, de 1/100 de degré en 2015 ou plus, puisque la marge d'erreur est assez grande, paraît-il. Quoi qu'il en soit, on ne dit pas, comment on dit ça, après moi le déluge. Voilà, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Merci à tous ceux qui, sans être croyants, n'ont pas cette attitude. Mais nous, en tant que croyants, on doit la développer. Ça marche, c'est comme ça. Didier,
on va passer au point dans une de nos réunions, mais pas forcément ici à l'église,
oui.
Qu'un chrétien haut placé un peu aux États-Unis, pour faire sourire, a dit que ça ne sert pas à grand-chose qu'on fasse attention à la planète, parce que de toute façon, Jésus sera revenu avant que ce soit catastrophique.
Ouais.
Voilà. Alors,
même si ça se réchauffait.
Oui. Donc, ce n'est pas juste.
Bon, je ne sais pas si c'est utile ce que je viens de dire.
Si, si.
Mais je l'ai entendu.
Pour dire que c'est pas bien, on peut le
oui,
redire.
Oui. C'est pas bien.
Ce n'est pas juste de dire quoi qu'il en soit, la Terre va être détruite et restaurée un jour. Ouais. Donc, on n'est pas à ça près. Un peu plus de carbone ou pas. C'est faux. Jésus, l'Écriture dans son ensemble, Dieu, notre Père, nous enseigne à prendre soin de la terre dès Genèse. Il a dit prends-en soin. Il n'a pas dit bah écoute, quoi qu'il en soit, ça va, c'est pas pour très longtemps. Donc, non, on rit, mais voilà. Oui. Donc c'est faux. Martin, je crois.
Oui, j'ai entendu dire aussi la remarque. Même le bétail à l'étable doit remarquer si un agriculteur est devenu chrétien.
C'est génial.
Oui,
et je pense que j'approuve.
Je le crois. Nous croyons au fruit de l'esprit, et c'est une réalité. Et mes voisins doivent le voir, mon professeur doit le voir, mes élèves doivent le voir, et mon troupeau doit le voir. Oui, et un croyant qui maltraite une bête, c'est pas cohérent. Ouais, je suis d'accord. Adeline.
Je pense que ça serait bien qu'on passe plus que 10 minutes une fois sur ce sujet. Il y a un besoin, non, de...
Peut-être, c'est pour ça que j'avais pensé que ça partirait.
Je pense qu'il y aurait vraiment un besoin.
Et que j'avais pensé
qu'on en reparle.
Que ça serait pas mal interactif ce soir. Ouais. Mais ok, j'enregistre. D'accord. En reparler plus.
Franchement, ouais.
Adeline suggère qu'on en reparle un peu plus que 10 minutes. On a pris un peu le temps ce soir de creuser des questions concrètes comme cela. Mais il faudra qu'on retrouve peut-être des lieux pour s'encourager à des vies cohérentes.
Oui, et particulièrement le sujet de l'écologie.
Et puis,
ça part dans tous les sens.
En particulier, l'écologie. Donc, accueillir tout le monde, grand défi. Vous avez compris que ce n'est pas gagné et qu'on a beaucoup à se laisser corriger par Dieu, par sa parole, par les frères et sœurs, par nos voisins, nos amis, pour accueillir tout le monde. L'entraide concrète, des comportements citoyens. Être lumière dans les réflexions de fond. On est parti de là, on est allé dans l'écologie. Prions pour les personnes qui, au nom du CNEF par exemple, contribuent à des débats importants concernant l'éthique. Pas seulement au nom du CNEF, ça date d'avant. Je vous disais il y a 10 minutes, on nous a réclamé. Je me souviens d'un médecin chrétien qui avait donné une conférence à la pastorale et qui disait avoir été sollicité par l'État pour des questions concernant la bioéthique. Hein, parce que de grands savants et de grands politiques ont eu la modestie de reconnaître qu'ils étaient un peu en manque de repères, au-delà des questions scientifiques. Cinquième sous-point proposé, l'annonce de l'Évangile. J'aurais pu le mettre en premier. Mais je l'ai mis là, hein, en disant, ben oui, tout de même, c'est un grand bien. Alors j'ai dit 2-3 fois ce soir qu'on s'est peut-être trop retenu de faire d'autres biens, mais c'est évident que nous devons aussi, tout particulièrement, faire ce grand bien que le Seigneur nous a confié et que là, pour le coup, les autres ne peuvent pas accomplir. et qu'il nous faut, pour faire du bien, pour contribuer à la paix, Jérémie 29, de la cité, être de zélé, être présent pour faire connaître l'Évangile et pour annoncer ce qui concerne Dieu et le salut qu'il nous offre. Voilà, un point rapide qui est un immense morceau, mais que je mettais ici. Sixièmement, la prière. Une façon aussi de faire du bien à notre ville. Pour qui doit-on prier en relation avec notre thème?
Les autorités.
Pour les autorités, oui. 1 Timothée 2, merci. Mais qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Prier pour tous les hommes. Et les femmes. On doit prier pour tous les Mulhousiens. Il semble bien, en méditant ce texte, en bénéficiant d'études de l'un ou l'autre commentateur, que le tout veut surtout dire, veut principalement dire toute catégorie. Dieu ne nous demande pas de prier pour les 150 000 Mulhousiens, environ.
100 000.
Intramuros, c'est ça. Intramuros, oui. Donc j'allais plus loin parce que j'ai tellement.
On peut prier pour la banlieue aussi.
La banlieue, voilà. Knef Mulhouse. Mais il nous demande de prier pour tous les hommes. Pour les grands, pour les moins grands, pour ceux qui sont en autorité. Pour tous les hommes. Et là-dedans, il y a pour nos autorités. De temps en temps, on se ressaisit et on le fait plus. Assez régulièrement, on se relâche. Pour les autorités et pour les autres.
On critique facilement l'autorité, enfin, je ne sais pas, peut-être tout le monde,
oui.
Mais au lieu de prier, de demander de les bénir et de les aider.
Oui, et dans certains cas, c'est difficile, hein, de prier pour des autorités particulièrement tordues. On peut prier pour qu'elles soient moins tordues.
Mais dans certains pays, ça doit vraiment être...
Prier avec ferveur, ce n'est pas toujours simple. Mais on doit prier pour nos autorités. Et puis il y a des choses qui nous déçoivent beaucoup, il y a des choses qui nous semblent aller du bon côté. Mais on doit soutenir dans la prière. Thierry Le Gall a un ministère depuis quelques mois qui se développe beaucoup d'aumônerie auprès des parlementaires. Et une des choses qu'il propose, et qui est, il est étonné que ce soit si souvent accepté, une des choses qu'il propose, après avoir présenté son ministère, son offre auprès des parlementaires, une des choses qu'il propose, c'est de prier. Et beaucoup veulent. Et beaucoup sont touchés de savoir que des croyants prient particulièrement pour eux. Ici à Mulhouse, culte en commun, les premières années, on avait suggéré timidement, ouais, quand même un peu timidement, au maire de l'époque, Jean-Marie Bocquelde, prier pour lui. Les années suivantes, il nous disait, n'oubliez pas, après mon discours, il y a la prière. Je pense que c'était qu'il y avait du sincère. Les hommes politiques, plusieurs, reconnaissent qu'ils ont bien besoin de soutien de partout, et pourquoi pas d'en haut.
Thierry Le Gall, c'est qui?
C'est un des permanents du CNEF national, directeur de la communication, qui sera avec nous pour le culte en commun à la fin septembre, et qui développe un ministère d'aumônerie auprès des parlementaires. Donc on peut prier pour Thierry Le Gall. Il y en a d'autres. Hein. Certains d'entre nous ont à cœur de garder un contact avec des gens de la municipalité, entre autres pour tendre une perche spirituelle. Donc prions pour tous, pour les autorités, pour bénir. Ça aussi, c'est un vocabulaire qui ne faisait pas partie de mon contexte religieux, bénir les autres, au sens où d'autres milieux l'utilisent plus que nous, mais je l'intègre un peu plus les dernières années. Il est bon de bénir la ville, de demander à Dieu d'intervenir pour le bien d'eux. Il est bon de bénir le maire de la ville et les adjoints, de demander à Dieu de les bénir. Il est même important de prier pour nos ennemis, toujours le même Matthieu 5 à 7. Donc nous avons un grand ministère L'Église doit prier. L'Église sert à quoi ? Elle doit prier pour le bien de la cité. Il y a des choses qui se passent à Moscou, à Paris, à Tokyo, parce que les églises prient. Donc elles contribuent au bien. Dernier sous-point, avant que vous complétiez encore, mais avec le dernier c'est difficile de compléter, parce qu'il dit tout, ce que Didier a évoqué tout à l'heure, l'amour. À quoi l'Église sert-elle dans le monde ? On doit être de ceux qui s'aiment l'amour. Qui s'aiment, S'apostrophe. Et du coup, qui s'aiment l'amour. J'aime bien cette idée de semence. Et puis allons-y, hein. La paix, la bienveillance, la bonté, la douceur, le respect, vous avez reconnu, Galates 5, 22. On doit être de ceux qui s'aiment ça. Bon. Allez, un autre verset. On doit être une bonne odeur. Ça va avec ? Ouais. C'est utile une bonne odeur ? Moins. C'est pas forcément utile au sens le plus rapide, à court terme, efficace. Mais c'est extrêmement utile d'être une bonne odeur dans l'entreprise, dans la rue, dans l'école, dans l'entreprise, dans la famille.
Parce que si on sent mauvais, les gens vont le remarquer.
Oui, et on a compris qu'on parlait du comportement.
Voilà.
Comportement, ouais. Je veux dire, oui. Donc, c'est aussi une utilité très forte. On doit être de ceux qui aiment, avec ce mot qui résume tout, et de ceux qui diffusent, pour changer de verbe, diffusent tout cela, contribuent à encourager tout cela dans nos villes et nos villages. Voilà. Complément, remarque sur des aspects concrets de ce qu'on peut être et faire dans nos villes. Accueillir, entraider, comportement citoyen, lumière dans les réflexions, annonce de l'Évangile quand même. Être des personnes qui prient et de ceux qui distillent l'amour.
Suite aux violences dont notre pays a été victime, je pense qu'on a un positionnement à avoir, à faire partie des gens qui militent pour la paix, pour ce genre de choses que tu as citées, pour l'amour, la fraternité. Et c'est un thème qui est assez récurrent. J'étais cet après-midi encore dans un lycée professionnel de Mulhouse pour parler. La question, c'était comment contribuez-vous à la paix ? Et j'étais avec d'autres religions et c'est un exercice très, très difficile. Je crois qu'on doit y être parce que ça fait partie de ce à quoi nous servons dans le monde, je pense.
Oui, merci beaucoup Jean-Marc. Dans les croyants très connus, un Martin Luther King, quand même, a eu l'impact qu'il a eu, pas seulement parce que c'était un homme fantastique, mais parce que l'Évangile l'habitait quand même. On peut dire ça.
Oui. Un pasteur baptiste voudrait.
Ouais, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Oui. En Afrique du Sud et avec l'apartheid, il y a eu des actions très fortes de la part des églises.
Oui, dans la prière. Et finalement, l'Afrique du Sud ne s'est pas déchirée. Comparé à d'autres pays, il y avait un peu les mêmes.
Il y a eu des actions concrètes, il y a eu des interventions de Dieu dans la prière. On vit en dernier point.
L'Afrique du Sud, c'est flagrant.
Donc oui, tout à fait. Jean-Marc a rappelé l'importance de tout ce qui peut contrer dans notre monde. Il y a des choses à faire pour contrer toute cette violence. Il y a des actes d'amour qui ont changé le cours des choses. Et encore, de la part de croyants ou de non-croyants, mais les croyants se doivent de recevoir et de distiller ce plus qui vient de l'amour de Dieu en nous. Engageons-nous avec détermination pour le bien de nos villes et villages. Pas comme aspect de notre vie chrétienne auquel il faut faire un peu de place, mais comme partie intégrante de notre vie chrétienne, au service de Dieu, du prochain, dans l'amour de Dieu et du prochain. Souvenons-nous que Dieu nous le demande, qu'il nous accompagne, qu'il veut nous équiper. Il nous faut être de ceux qui aiment, qui apportent la paix, qui accueillent, qui sèment la bienveillance, la patience, la douceur. et demandons à Dieu de continuer à développer en nous le fruit de son esprit, c'est une des façons dont j'exprime le plus facilement mon rêve pour l'Église de Dieu sur terre aujourd'hui, et pourquoi pas pour la nôtre, Neuf Rue des Charpentiers, qu'on soit de ceux qui reflètent tout ça et qui font du bien par des choses aussi fondamentales que ce que le fruit de l'esprit nous met devant les yeux. Voilà. Encore une remarque, tu crois?
Non, mais tu l'as dit, mais pas compter sur nos propres forces.
Voilà. Donc oui, donc on se rejoint.
Ouais.
On se rejoint puisque je termine en évoquant une fois de plus Galates 5, 22. Et reconnaissons-nous d'autant plus responsables d'être beaucoup de choses qu'on a dites ce soir parce que Dieu nous équipe. Donc c'est faux qu'on ne se retrousse pas les manches, tout particulièrement en étant marqué par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Oui, Madeleine. Ah, c'est une belle question pratique. Est-ce que l'Église pourrait aller jusqu'à soutenir un membre engagé politiquement? Ça revient à ça, ta question?
Il peut être vraiment au cœur de ce qui se décide et se fait à la municipalité au plus loin.
Oui, oui. J'aurais tendance à dire plutôt oui, en sachant qu'il doit y avoir des choses compliquées qui m'échappent.
Mais,
oui, non, mais c'est une belle question. On a été mal à l'aise avec l'engagement politique des chrétiens à certaines périodes. On en est plutôt sorti. On est plutôt heureux en général. Alors j'affirme que, à mon avis, c'est juste d'être heureux que des chrétiens s'engagent partout. Maintenant, ta question me pousse un peu plus loin de façon concrète. Est-ce qu'une église pourrait soutenir de certaines manières, oui, je vois mal, allez. Je vois mal une église soutenir financièrement quelque chose qui serait relié à un engagement politique. Par contre, que l'église soit un soutien, comme les derniers points le disaient, dans la prière, dans l'encouragement fraternel, oui mon frère, vas-y. Mine de rien, c'est une action de l'Église. Et l'Église pourrait, hélas, faire le contraire. Hein, et décourager, et mépriser, on a dit ce soir des choses qu'on ne veut pas vivre. Décourager l'engagement politique, c'est dommage. Ça, c'est fait. Donc soutenir, oui, ça dépend ce qu'on met derrière les mots. Mais j'aurais plutôt envie de dire oui à ta question.
Est-ce qu'il y a des exemples d'engagement, de soutien dans ce
style-là, parce qu'on ne
reconnaît pas. Hein.
Alors, oui, moi j'aperçois des églises qui ont encouragé des croyants engagés politiquement. On avait avec nous Franck Meyer, maire dans l'ouest de la France, président du collectif national des maires de France pendant quelques années, maintenant président du CPDH. Son église est derrière lui. Voilà un exemple. Elle ne finance pas ses tournées politiques, mais elle est derrière lui. Oui, un exemple parmi les plus marquants, à mon avis. Jean-Marc ?
J'ai une fois participé à une table ronde où il y avait je ne sais plus qui, dans le nord de la France, d'une grosse commune, une communauté de communes, un chrétien engagé comme adjoint au maire, qui était, je ne sais plus où maintenant, ni son nom, mais ça, c'est assez rare quand même en France, parce que le contexte politique est ce qu'il est. Ceci dit, je reviens à la question du protestantisme en général, il y a eu un certain nombre de protestants qui ont été identifiés comme tels et qui ont été des hommes politiques et des femmes politiques.
Oui, quant à l'encouragement de l'Église, si on élargit à l'Église au sens des croyants, l'Église de Jésus-Christ en France, le GBU a vraiment encouragé, en particulier avec Daniel Wittmann, pour le citer, les étudiants à s'engager politiquement en tant que croyants. Donc ça répond à ta question. C'était un encouragement clair qui m'a marqué, moi, je me suis retrouvé pasteur, mais ça m'a marqué dans la réflexion. Il y a 30 ans, il y avait un discours clair au GBU en faveur d'engagement dans toute la société, y compris dans la politique. Oui.
Mais quand on était
aux Chantal,
obsèques
oui.
de Guy Appéré, tu te souviens peut-être?
Pardon.
Quand on était aux obsèques de Guy Appéré,
oui.
il y avait des résistants.
Oui, oui, oui.
Lui était dans la résistance.
Oui, oui. Alors là, oui. Là, il y a eu de beaux exemples très, très forts. de l'engagement des croyants. Il y a eu le Chambon-sur-Lignon. C'était aussi au nom de la foi en Dieu que des choses merveilleuses ont été faites. Et heureusement que les croyants, dans ce cas-là, n'ont pas dit « Oulala, tout ça c'est compliqué, on va se salir les mains, c'est pas à nous d'accueillir tous ces enfants, nous on va annoncer l'évangile et prier ». Heureusement qu'ils ont été sel et lumière, très concrètement. Oui, merci de le rappeler. Je vais prier à la fin de cette soirée. Notre Père, merci pour ce temps de réflexion, de communion que tu nous as accordé ce soir. Et nous te demandons de nous aider à mettre en pratique ce que ta parole nous dit dans tous les domaines et entre autres dans le chapitre que nous avons évoqué ce soir. Aide-nous les uns les autres à mieux comprendre comment nous pouvons contribuer au bien de notre ville. Aide-nous en tant qu'Église, puisque c'était notre thème aussi, particulièrement, à discerner pas après pas, dans les années qui viennent, comment nous pouvons contribuer au bien du quartier, au bien de la ville, au bien de ceux qui nous dirigent. Aide-nous à progresser dans notre vie de prière pour eux et dans notre engagement très concret pour le bien de la cité où nous sommes. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Merci pour ton esprit qui nous transforme intérieurement et parce que tu veux permettre que tout cela se traduise très concrètement dans notre façon de vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.